Bien, la conférence du cercle Léon Trotsky va commencer. Donc, si les derniers peuvent regagner, gagner une place. Et donc, je rappelle qu'il est recommandé d'éteindre son portable. Alors, comme vous le savez, le cercle Léon Trotsky est consacré ce soir à l'Iran, qui est revenu particulièrement dans l'actualité au cours des derniers mois. Sous le joug de la dictature du Shah Reza Pahlavi, l'Iran était une monarchie stable depuis plusieurs décennies, avec le soutien des puissances impérialistes américaines et européennes, quand le régime a été balayé par un véritable soulèvement populaire en 1979. Lâché par le gouvernement américain lui-même, le Shah dut s'exiler, tandis que le soulèvement populaire portait au pouvoir l'ayatollah Khomeini et le clergé chiite qui fondèrent la République islamique. Première dans son genre, la République islamique iranienne n'était pas le produit d'une continuité féodale et moyenâgeuse comme d'autres régimes islamiques le sont, en Arabie saoudite ou ailleurs, mais au contraire, l'aboutissement du renversement d'un régime militaro-policier grâce à la puissante mobilisation des classes populaires et de la petite bourgeoisie iranienne. Jamais auparavant, l'Iran n'avait connu un tel déferlement des masses populaires. Mais ce véritable soulèvement révolutionnaire fut contrôlé par le clergé chiite qui en prit la direction. Celui-ci mit en place un régime ne souffrant aucune contestation et contraignit la société à un mode de vie archaïque et discriminatoire envers les femmes au nom de la religion islamique. La dictature réactionnaire des mollahs dure depuis plus de 30 ans, malgré l'hostilité déclarée des puissances impérialistes. Non que ce régime soit irréconciliable avec les intérêts des impérialistes occidentaux, qui en soutiennent d'autres, tout aussi obscurantistes et liberticides. Mais celui de la République islamique d'Iran a jusqu'ici été trop incontrôlable à leurs yeux et surtout trop soucieux de son indépendance vis-à-vis des intérêts occidentaux. Son assise populaire l'a rendu assez solide pour résister dans les années 80 à une guerre dévastatrice qui a duré 8 ans contre une autre puissance régionale, l'Irak de Saddam Hussein, qui avait alors le soutien des Occidentaux. Le régime islamique d'Iran réussit aussi à résister aux nombreuses pressions économiques, dont un embargo commercial initié par les États-Unis. Cependant, depuis les élections présidentielles de juin dernier, dont le résultat a été contesté par les perdants, des manifestations de protestation contre le président Ahmadinejad se sont développées. Des fractures au sein du pouvoir ont éclaté au grand jour, comme cela s'était déjà produit dans le passé. La contestation implique des dirigeants du régime, ex-ministres et ex-présidents qui critiquent publiquement l'actuel président et même Khamenei, le chef religieux placé à la tête de l'État. C'est une crise politique qui s'exprime au sein même du régime. D'autre part, depuis la réélection d'Ahmadinejad jusqu'à la fin de l'année 2009, les manifestations se sont multipliées, mobilisant en particulier la jeunesse étudiante de Téhéran, mais pas seulement. Fin décembre, les manifestants du mouvement qui se dit vert, comme la couleur symbolique de l'islam, brandissent des slogans hostiles comme Abba Ahmadinejad, mort au dictateur, Abba Khamenei, ou encore Abba le principe du velayat-e faqih, principe inscrit dans la Constitution qui attribue le pouvoir suprême en politique à un chef religieux chiite, un ayatollah. Que se passe-t-il actuellement en Iran? Comment la situation peut-elle évoluer? Le régime islamique est-il ébranlé au point de tomber? Il est difficile de le savoir, car nous ne connaissons des événements que ce qu'en rapporte la presse. Or, celle-ci n'est pas objective. La presse iranienne, très contrôlée, n'est pas fiable. Et de l'autre côté, les médias occidentaux racontent à peu près n'importe quoi. Les États-Unis exercent une pression pour tenter d'infléchir l'évolution du régime en leur faveur. Les médias participent ici à une opération de propagande destinée à donner une image du régime et de ses opposants qui convient aux impérialistes occidentaux, et leurs explications sont bien souvent mensongères. Alors nous pouvons quand même tenter de comprendre ce qui se passe en regardant comment on en est arrivé là, comment ce régime a été mis en place, quelle a été son évolution et dans quelle mesure il est aujourd'hui déstabilisé. Je donne maintenant la parole à notre camarade Anne Brunet.
Pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui, il nous faut commencer par ce que fut l'Iran qui donna naissance au régime islamique. C'est au tout début du XXe siècle que du pétrole fut découvert dans le sud de ce qui s'appelait encore la Perse, dans la région du Khuzestan. Dès 1908, l'Angleterre contrôlait la production pétrolière avec la Compagnie anglo-perse de pétrole. En effet, depuis déjà plusieurs décennies, la Russie et l'Angleterre se partageaient la Perse, les premiers contrôlant le nord et la région d'Azerbaïdjan, tandis que les seconds avaient la main mise sur le sud du pays. Le régime politique était de longue date une monarchie, celle des princes Qadjars, une féodalité qui vivait sur le dos d'une paysannerie importante. C'était une société encore largement tribale. À cette époque, dans les centres des villes, dans les quartiers qu'on nomme là-bas le bazar, où marchands, artisans et usuriers étaient regroupés, une bourgeoisie commerçante intimement liée au clergé s'était développée. Les religieux influents étaient non seulement opposés au progrès, mais aussi à la pénétration économique de l'Occident, ce qui faisait d'eux des alliés de la bourgeoisie des quartiers du bazar, les bazaris. Cette alliance s'exprima à plusieurs reprises au cours du siècle dans des conflits qui opposèrent la bourgeoisie nationaliste et le clergé aux puissances impérialistes. Il existait d'autre part en Iran des intellectuels perméables aux idées modernes et nationalistes, une élite cultivée, plus ou moins laïque, qui devint l'allié des religieux lors du soulèvement de 1906 contre le monarque Qadjar. C'est sous le nom de « révolution constitutionnelle » que sont désignés les événements qui se déroulèrent jusqu'en 1911 et contraignirent le Shah à accepter le principe d'une constitution et la création d'un parlement. Mais le mouvement n'alla pas loin. Les armées russes du Tsar et l'armée anglaise bombardèrent le parlement et la ville insurgée de Tabriz. Le Shah put ainsi rétablir son autorité et le mouvement prit fin. Durant la Première Guerre mondiale, l'État Qadjar ne disposait encore d'aucune armée nationale, mais d'un seul véritable corps d'armée, la Brigade Cosaque, commandée par des officiers russes. Les Britanniques et les Français tentèrent de prendre le contrôle de tout le pays, mais à la fin de la guerre, seuls les Anglais contrôlaient encore une partie de la Perse. Le reste du pays était en proie au chaos. L'Angleterre trouva l'homme qui allait lui servir, le colonel Reza Khan. Celui qui devint dictateur jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, commença par la répression des mouvements régionaux et du tout récent mouvement communiste. En effet, un parti communiste fut créé en Iran en 1920 par des intellectuels du Parti social-démocrate russe. En septembre 1920, la Conférence des peuples d'Orient organisée à Bakou par l'Internationale communiste réunissait une délégation persane aux côtés de délégations d'Asie centrale, du Caucase, et de délégations arabes ou chinoises. La révolution russe avait ouvert une brèche en provoquant la désagrégation de l'armée du Tsar, faisant souffler un vent de liberté pour les peuples. Dans ce pays composite qu'était la Perse, plusieurs de ces peuples, du Kurdistan à l'Azerbaïdjan, s'en saisirent pour tenter d'obtenir plus d'autonomie. Une république socialiste soviétique persane fut créée en 1920, dans une région bordant la mer Caspienne. Une guérilla formée de nationalistes radicaux et religieux s'allia aux bolcheviques et ils constituèrent la République socialiste soviétique du Gilan avec le soutien de l'armée rouge. Elle ne dura que quelques mois. La division cosaque fut chargée d'en finir avec ses insurgés et c'est sous la direction du colonel Reza Khan que l'armée rétablit un ordre qui convenait aux Anglais pour pouvoir exploiter les ressources naturelles du pays. Reza Khan fut non seulement chargé de réprimer toute contagion révolutionnaire, mais aussi d'établir un État fort. Il s'en prit non seulement aux communistes, mais aussi aux mouvements régionaux du Kurdistan, d'Azerbaïdjan et de la région pétrolifère du Khouzestan. Et il ne se contenta pas du pouvoir militaire. En 1925, il renversa l'ancienne dynastie Qadjar, monta sur le trône et devint shah, c'est-à-dire roi. Il fonda la dynastie Pahlavi, avec l'ambition de créer un État moderne et unifié. Il établit une dictature militaire imposant la sédentarisation aux tribus nomades et la terreur armée jusqu'au fin fond du pays. Le nouveau monarque se voulait un modernisateur et, à l'image de Mustafa Kemal en Turquie, il chercha à limiter le pouvoir du clergé et s'opposa aux mollahs. Il imposa, à titre symbolique, un style vestimentaire à l'occidental. C'est en 1935 que la Perse changea de nom et devint l'Iran. Pour les masses pauvres, le modernisateur était l'homme de fer, au service des classes privilégiées et des puissances impérialistes qui contrôlaient les richesses du pays. Avec l'industrie pétrolière, la classe ouvrière s'était développée. Des syndicats récemment créés organisaient plusieurs milliers de travailleurs. La nouvelle monarchie mit fin aux libertés politiques, interdit le Parti communiste et le Conseil central des syndicats où ils étaient influents. Des groupes de militants clandestins subsistaient cependant. La dictature de Reza Pahlavi ne put empêcher ni les grèves, ni la formation du syndicat des industries pétrolières en 1928. Les travailleurs des industries pétrolières étaient combatifs et ils firent de grandes journées de grève, comme celle du 1er mai 1929. L'étau de la dictature ne fut desserré que lors de la Seconde Guerre mondiale, car les dirigeants impérialistes changèrent alors d'attitude. Reza Pahlavi devenait gênant avec sa sympathie pour le régime nazi, et par ailleurs, les alliés anglais et russes avaient grand besoin du pétrole iranien. Le shah fut renversé et envoyé en exil. Le pays, bien que neutre jusque-là dans le conflit, fut entièrement occupé par les troupes alliées britanniques et soviétiques sous l'œil bienveillant de Roosevelt. Les dirigeants américains attendaient leur heure, qui n'allait pas tarder à venir. Après avoir déposé le père, les Occidentaux mirent sur le trône le jeune fils du shah, Mohamed Reza, qui promettait d'être aussi dévoué à leurs intérêts. Durant ces années d'occupation, des groupes nationalistes et socialistes se développèrent et le mouvement ouvrier connut un nouvel essor. C'est dans ce contexte que fut créé, en 1941, un nouveau parti se disant communiste, le Toudé, ce qui signifie « parti des masses ». Le Toudé se constitua à la faveur de la présence militaire soviétique et s'implanta rapidement dans les provinces du Nord, dans la zone d'occupation de l'armée soviétique. Il se développa aussi dans le centre du pays, à Esfahan, alors centre de l'industrie textile, puis après la fin de la guerre, dans le sud, parmi les travailleurs de l'industrie pétrolière. Loin d'être un parti prolétarien, le Toudé n'a jamais envisagé la contestation de la propriété privée, ses mots d'ordre se limitant à indépendance, liberté et progrès. Il prônait dès ses origines la démocratie dans le respect de la monarchie parlementaire, ne s'opposant ni à l'impérialisme ni à la religion. Pourtant, ce parti stalinien tissa des liens avec la classe ouvrière. Ses militants œuvrèrent à la constitution de syndicats qui connurent un développement important dans ces années 40. En 1946, dans le Khouzestan, les revendications ouvrières s'exprimèrent lors d'une grande grève des travailleurs du pétrole. En 1951, c'est un bourgeois nationaliste modéré, nommé Mossadegh, chef du gouvernement, qui décida la nationalisation du pétrole jusque-là entre les mains de la compagnie anglo-iranienne détenue par les Britanniques. C'était une mesure favorable à la bourgeoisie iranienne. Le Parlement vota la nationalisation et la Compagnie nationale iranienne des pétroles fut créée. Une coalition, nommée Front national, alors soutenue par le clergé, regroupait aux côtés de Mossadegh des politiciens hostiles au shah, des hommes de la petite bourgeoisie moderniste et des marchands du bazar. Des grèves et des manifestations populaires éclatèrent en faveur de Mossadegh et de la nationalisation. Mais en évinçant la compagnie pétrolière anglo-iranienne, le gouvernement avait en fait atteint l'ensemble des intérêts des puissances impérialistes. L'Iran dut alors subir un véritable blocus, un premier embargo en guise de représailles. Des dizaines de milliers de travailleurs étaient prêts à se mobiliser dans le bras de fer qui opposait Mossadegh à la puissante compagnie britannique. Il y eut des émeutes et le parti Toudeh, qui n'avait pas soutenu le mouvement dans un premier temps, se rallia finalement à la mobilisation aux côtés du Front national. Parmi les masses, c'était le Toudeh qui était le plus influent. Le Front national et le clergé ne souhaitaient pourtant pas le soutien des communistes ni la mobilisation de la classe ouvrière, qui constituait aussi une menace aux yeux des dirigeants impérialistes. Pour eux, le risque devait être rapidement écarté. Les États-Unis décidèrent d'en finir avec le gouvernement de Mossadegh et avec l'affront que représentait la nationalisation du pétrole. C'est un général iranien qui fut le bras armé de la CIA et réalisa le coup d'État renversant Mossadegh en août 1953. Une vague de répression faisant des centaines de morts s'abattit sur ceux qui s'étaient mobilisés et plus particulièrement sur les communistes. L'instauration d'une violente dictature prolongea le coup d'État. Le Front national fut interdit et le Parti communiste, le Parti Toudeh, démantelé. Les États-Unis profitèrent de la situation. Ils supplantèrent les Britanniques en prenant le contrôle de 40% du pétrole iranien. La mise au pas du gouvernement iranien et la répression des ambitions nationalistes aboutirent à un renforcement de la dictature au service des puissances occidentales. Une police politique, la SAVAK, restée tristement célèbre pour ses nombreux crimes, fut créée en 1957. Jusqu'en 1965, elle fut dirigée par des militaires de formation française, Temur Bakhtiar et Hassan Pakravan, tous deux Saint-Cyriens. Mise en place avec l'aide de la CIA, elle était également assistée par les services spéciaux israéliens, le Mossad. Les États-Unis entreprirent aussi d'aider la monarchie à constituer une armée puissante et moderne. Il s'agissait non seulement de faire de l'Iran un rempart contre l'Union soviétique en période de guerre froide, mais aussi d'apporter un maximum de soutien à ce régime qui leur était favorable. À partir des années 60, le Shah, sur les conseils de la Maison-Blanche et du gouvernement Kennedy, mit en œuvre une série de mesures, des réformes, destinées à moderniser le pays. Ces réformes concernaient principalement les campagnes, et la plus importante d'entre elles était une réforme agraire destinée à moderniser l'agriculture en nationalisant les terres de certains grands propriétaires lorsqu'elles étaient trop peu mises en valeur. En contrepartie des terres qu'ils cédaient, ceux-ci bénéficièrent de parts de propriété dans des sociétés industrielles publiques. Plusieurs millions de paysans furent concernés par la redistribution des terres, mais ils durent les racheter en s'endettant. Et finalement, beaucoup d'entre eux plongèrent dans la misère et l'exode rural s'accéléra. Une seconde réforme devait enrayer la déforestation en limitant les zones de pâturage. Les nombreuses tribus nomades furent les victimes de cette mesure. Pour elles, les nouvelles contraintes les obligeant à la sédentarisation étaient synonymes de paupérisation. Finalement, des millions de paysans furent ainsi poussés vers les villes, où ils devaient former une nouvelle main-d'œuvre disponible pour le développement de l'industrie. Des tensions et des révoltes apparurent dans les campagnes à cause de ces réformes, menées d'une façon autoritaire, au nom de la modernisation. D'autres mesures contraignaient hommes et femmes à un mode de vie occidentalisé. Par exemple, le Shah interdit aux hommes de porter la barbe, aux femmes de porter le voile, et on donna le droit de vote à celle-ci en 1963. Cela allait certes dans le sens de l'histoire, mais c'est un régime de plus en plus détesté de tous qui tentait de faire disparaître ces archaïsmes par la force et la brutalité. Autant dire que ce n'est pas ainsi que les idées progressistes pouvaient pénétrer dans le peuple. Ces mesures provoquèrent l'hostilité du clergé. En 1963, les mollahs, qui craignaient par ailleurs de perdre leur propriété foncière, entrèrent en révolte. Leur opposition à la politique du Shah fut réprimée. Certains d'entre eux furent exilés, dont l'imam Khomeini, qui dut se réfugier en Irak. Dès lors, la hiérarchie chiite constitua une opposition farouche à la monarchie pahlavie. Celle-ci, prise au piège entre les intérêts de l'impérialisme et la nécessité du développement de l'Iran ne s'opposa pas aux puissances occidentales, comme Mossadegh avait tenté de le faire au début des années 50. Finalement, les mesures prises contre les traditions empreintes de féodalité ne furent que superficielles et ne transformèrent pas la société. Les réformes du Shah étaient destinées à favoriser l'industrialisation du pays et le développement de la bourgeoisie. Une nouvelle bourgeoisie apparut dans les années 70 grâce à la privatisation d'une partie de l'industrie liée au pétrole. Cette bourgeoisie d'affaires, proche de la cour du Shah, était directement liée aux sociétés internationales. À partir de 1973, l'augmentation du prix du pétrole, qui fut multipliée par 4, permit l'enrichissement encore plus rapide d'une petite fraction de la bourgeoisie. Les fortunes constituées alors étaient d'autant plus choquantes que le pays était maintenu dans un état de sous-développement. La misère poussait des millions d'hommes et de femmes vers les villes, et en 20 ans, la population urbaine augmenta tant que la ville de Téhéran passa d'environ 1 500 000 habitants en 1956 à 4 millions et demi en 1976. Mais ce sont les inégalités sociales qui ont le plus augmenté dans cette période. Et à la fin des années 70, le Bureau international du travail considérait que les revenus de l'Iran étaient parmi les plus inégalitaires du monde. Le train de vie opulent de la cour du Shah s'étalait avec une ostentation qui connut son apogée en 1971, quand celui-ci donna, sur les ruines antiques de Persépolis, une fête fastueuse rassemblant des dizaines de rois et de chefs d'État. L'arrogance et le mépris de ses privilégiés envers les masses pauvres ne fit qu'accroître leur haine à l'égard du régime. Les réformes du Shah s'accompagnaient aussi de la mise en place du régime de parti unique, un parti unique le sien, tandis que tout autre parti était interdit. La dictature s'appuya sur des méthodes féroces, celle de la police politique, la SAVAK, qui comptait plusieurs milliers de permanents et 1 million d'informateurs en 1978. Les contradictions sociales étaient tellement importantes que, malgré le poids de la répression, la contestation qui débuta dans les années 60 se développa plus encore dans les années 70. Dans ces années 70, et particulièrement dans les dernières années de règne du Shah, l'Iran était la principale puissance militaire de la région du Golfe et l'armée, le pilier du régime. Accédant aux technologies modernes et dirigé par un roi qui voulait ressembler aux puissants du monde capitaliste, l'Iran pouvait passer pour un pays moderne, au contraire des monarchies arabes voisines qui vivaient encore au Moyen-Âge, à condition de ne regarder qu'en direction des milieux bourgeois et petits bourgeois. Pour les puissances impérialistes, le régime du Shah, qui semblait alors indéboulonnable, était le solide bras armé dévoué à la défense de leurs intérêts dans la région, comme l'était, pour d'autres raisons, l'État d'Israël. Il existait pourtant des forces d'opposition au Shah, même si elles étaient peu développées. Parmi celles-ci, c'est le parti communiste, le Toudé, qui était le plus important. Ses militants luttaient dans la clandestinité et plusieurs de ses dirigeants furent condamnés à mort en 1966. D'autres organisations politiques combattaient aussi la dictature avec détermination. C'est le cas de l'organisation des Moudjahédines du peuple, créée en 1965. Recrutant des étudiants et des intellectuels de la petite bourgeoisie, elle se définissait comme nationaliste, démocratique et musulmane, l'aile religieuse de l'opposition. Au contraire, l'organisation des fédaïnes du peuple se réclamait clairement du marxisme-léninisme, tendance maoïste. Ces militants, moudjahidines ou fédaïnes du peuple, furent nombreux à laisser leur vie dans le combat contre la dictature. Dans les années 70, ils menaient des actions de guérilla contre le régime. Par ce choix, ces militants étaient coupés des masses et ne pouvaient pas être très nombreux. Et ce ne furent pas eux, mais les religieux chiites qui purent alors avoir une influence grandissante parmi les pauvres. En effet, le clergé chiite fut la plus puissante des forces s'opposant à la dictature. Les mosquées étaient un refuge où les imams tenaient des prêches dénonciateurs du régime. D'autre part, les religieux avaient mis en place des formes d'aide sociale comme des soupes populaires pour les plus pauvres. Les mollahs, hostiles à la monarchie qui limitait leurs prérogatives, et des membres du clergé, parfois ayatollahs, connurent aussi les geôles du chat. La répression massive des opposants, comme la condamnation à mort des dirigeants du Toudé, rendait cette dictature de plus en plus critiquée de par le monde. D'une façon dérisoire et bien hypocrite, le président américain Carter engageait l'allié iranien à respecter les droits de l'homme. Or, la SAVAK n'avait jamais tant emprisonné et assassiné que dans ces années 70. Pourtant, elle ne put empêcher le soulèvement populaire qui renversa le régime du Shah. L'armée, elle aussi, fut en fin de compte impuissante devant le déferlement des masses soulevées contre la dictature. Une agitation débuta vers la fin de l'année 1977 dans les universités et parmi les travailleurs dont les grèves se multiplièrent. La mobilisation qui surgit en 1978 toucha d'abord, durant quelques mois, les milieux de la petite bourgeoisie, étudiants, commerçants et religieux. La destruction d'hôtels de luxe destinés au Shah et à sa cour exprimait toute leur colère contre ce régime qui faisait tant de laissés pour compte. Mais à partir de l'été 78, ce ne furent plus seulement les étudiants, commerçants, la petite bourgeoisie, ce furent les pauvres des villes et les travailleurs qui grossirent les manifestations, et celles-ci devinrent de plus en plus fréquentes. Des manifestants désarmés, hommes, femmes, jeunes et enfants, par centaines de milliers, venant des bidonvilles de Téhéran, déferlés vers le centre de la capitale, de plus en plus nombreux malgré les balles de l'armée. Cela dura plusieurs mois, car les manifestants étaient déterminés, et ils revenaient en vagues successives. La répression, l'instauration de la loi martiale qui interdit toute manifestation en septembre 1978, n'empêchèrent pas les manifestations de grossir. La mobilisation était impressionnante, et les tanks, les armes automatiques, ne pouvaient plus arrêter le peuple soulevé. Le soulèvement connut son maximum au mois de décembre. Chaque jour, la répression armée faisait des morts et chaque jour, les manifestants revenaient, malgré tout, encore plus nombreux. La classe ouvrière ne resta pas à l'écart, même si elle ne s'impliqua massivement dans cette lutte contre le régime que vers la fin de l'année 78. Pour l'essentiel, elle s'était constituée peu de temps auparavant à l'issue de l'exode rural provoqué par la réforme agraire du Shah dans les années 60-70. Ces travailleurs pauvres, souvent très jeunes, étaient à peine sortis de la paysannerie. Ils vivaient dans les bidonvilles de Téhéran ou d'Isfahan. La plupart d'entre eux étaient sans travail régulier et ne survivaient que grâce à l'économie informelle. Et quand ils accédaient à un emploi, ils étaient privés de syndicats ou de toute autre forme d'organisation dans laquelle ils auraient pu prendre conscience de leurs intérêts de classe. Mais il y avait aussi des travailleurs plus qualifiés, dans le pétrole, les transports ou l'électricité. Et ce sont les travailleurs du pétrole qui se mirent en grève en novembre 1978 et entraînèrent les autres. Peu après, la grève générale paralysait l'économie. Et dans le sud du pays, lorsque les ouvriers de la raffinerie d'Abadan firent grève, en novembre et en décembre 1978, tous les pétroliers furent bloqués dans le port. C'est alors que le glas sonna pour le régime du Shah. Les revendications ouvrières étaient politiques, contre le Shah et la dictature, mais les ouvriers participaient au soulèvement révolutionnaire sans avoir leur propre direction. De même, les travailleurs avaient mis en place des comités de grève dans l'industrie pétrolière où ils s'organisaient, créaient des liens entre eux, d'une entreprise à l'autre, pour mener la lutte le plus efficacement possible. Mais cela ne fut pas suffisant, car les travailleurs qui lisaient les tracts des Moudjahédines ou du Toudé n'y trouvaient que des appels à l'unité contre la dictature, sans aucune critique de la hiérarchie religieuse. Le clergé, dans l'opposition au régime impérial, avait dénoncé le luxe dans lequel celui-ci vivait, le gaspillage auquel il se livrait. Les religieux s'adressaient aux déshérités, auxquels ils promettaient un avenir meilleur en se battant contre la monarchie au service des étrangers. Ces discours distillaient une propagande principalement moraliste et nationaliste. Alors que la répression n'était plus en mesure d'arrêter les masses, de plus en plus nombreuses à manifester, le clergé, déterminé à participer au renversement de la monarchie, se mit à leur tête. Les 10 et 11 décembre 1978, il y eut plus d'un million de manifestants dans la seule ville de Téhéran, mais toutes les organisations hostiles au Shah, dont les Moudjahidines et les Fedaïnes, manifestaient derrière les portraits de l'ayatollah Khomeini. Le renoncement de ces organisations, leur alignement derrière les religieux, contribua à donner à ceux-ci une situation hégémonique. Khomeini, en exil depuis 1964 et depuis peu en France, menait à distance une campagne de propagande et préparait son retour en Iran en recevant des dirigeants de l'opposition, comme ceux du Front National, qui cautionnaient ainsi l'autorité politique du chef religieux au lieu de la lui disputer. L'État français laissait Khomeini diriger son réseau religieux depuis sa résidence des Yvelines. Les organisations de l'opposition apportèrent leur caution à l'ayatollah. Des dirigeants d'organisations laïques, libérales, vinrent négocier avec lui. Et Massoud Rajavi, le dirigeant des Moudjahidines du peuple, lui rendit également visite en région parisienne. Toutes ces organisations, dont le parti Toudé, les Moudjahidines et Fedaïnes du peuple, ont ainsi aidé les ayatollahs à s'emparer du pouvoir en se mettant à leur remorque quand la contestation allait croissante. Il n'était pas écrit que le clergé parviendrait à contrôler l'énergie révolutionnaire du peuple iranien. Une organisation combattante comme celle des Moudjahidines aurait pu contester la direction du mouvement religieux, ou au moins tenter de le faire, avec ses limites évidemment. Elle n'en fit rien, ou du moins ne se décida à combattre politiquement le clergé que des mois après qu'il ait été porté au pouvoir. Le parti communiste Toudé ne combattait pas lui non plus pour le pouvoir. Il s'était placé depuis longtemps aux côtés de la hiérarchie chiite, sans la contester. Il participa même à la supercherie mystique des Mollahs qui faisait croire à une apparition surnaturelle de Khomeini. Voici ce qu'écrivait alors ce parti, je cite: « Nos masses laborieuses, en lutte contre l'impérialisme conduit par les États-Unis, ont vu le visage de leur bien-aimé imam et guide Khomeini apparaître dans la lune. » Sous la poussée de l'insurrection et de la mobilisation ouvrière, la dictature vacillait et le Shah, pour tenter de sauver son régime, mit en place un nouveau gouvernement, avec Shapur Bakhtiar à sa tête. Mais il était trop tard, et le dictateur jugea plus prudent de s'enfuir à l'étranger, d'autant que dans ce contexte, les États-Unis cessèrent de le soutenir. L'état-major de l'armée, conseillé par les puissances impérialistes, jugeait alors qu'il était prudent d'éviter tout vide institutionnel. Pour eux, Khomeini constituait la solution de rechange permettant de sauvegarder l'appareil d'État. C'est donc soutenu par les grandes puissances et sans que l'état-major de l'armée impériale s'y oppose qu'il put revenir d'exil en avion et arriver sans ennui à Téhéran, où il reçut un accueil triomphal. Le coup de boutoir final contre le régime impérial fut donné par l'insurrection du peuple de Téhéran début février. Elle se fit au nom de Khomeini, mais pas à son initiative. Le peuple se souleva durant 3 jours contre le gouvernement Bakhtiar et la dictature. Alors que Khomeini n'y était pas favorable, des insurgés purent s'armer avec la complicité de certains militaires, car cette fois, l'armée impériale n'était plus en ordre de bataille pour réprimer. À l'issue de ces journées, le 12 février 1979, la monarchie fut abolie. Khomeini put dès lors mettre en place un nouveau gouvernement, avec le soutien des manifestants et d'une partie de l'armée à leur côté. Durant les mois qui suivirent, la lutte politique entre les prétendants au pouvoir permit au parti de Khomeini d'en contrôler la totalité. Le gouvernement, dirigé par Bazargan, un politicien libéral, mit tout en œuvre pour stopper l'élan révolutionnaire et désarmer la population. Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, des milliers de femmes féministes de la petite bourgeoisie urbaine défilèrent à Téhéran pour faire entendre leurs revendications spécifiques. Des hommes du parti de la République islamique de Khomeini tentèrent de les faire taire. Ce parti venait tout juste d'être créé. Il n'était pas encore tout puissant, mais ses milices commençaient à utiliser menaces et agressions pour se faire craindre. Dans l'appareil d'État, une épuration massive eut lieu. Des têtes tombèrent parmi les hauts responsables de la monarchie déchue, mais beaucoup d'entre eux s'étaient déjà enfuis à l'étranger. L'essentiel de l'état-major de l'armée passa dans le camp du nouveau pouvoir, et quelques mois plus tard, il ne fut plus question de demander des comptes aux assassins de l'ancien régime qui étaient amnistiés. Avec le clergé et Khomeini, le pouvoir restait entre les mains de la bourgeoisie. D'ailleurs, les États-Unis, comme l'Union soviétique, reconnurent immédiatement le nouveau régime. La terrifiante Savak, qui avait été chargée de défendre le pouvoir du roi, fut démantelée. Le régime islamique mit en place sa propre police politique, la Savama, qui recycla les méthodes de la Savak et même certains de ses hommes. Aujourd'hui appelée Vevak, la police politique du régime islamique n'est guère différente de l'ancienne Savak. Le nom a changé, une partie du personnel aussi, mais la fonction reste la même. L'armée ex-impériale avait certes perdu un certain nombre d'officiers trop liés au chat, qui avaient eux aussi préféré partir, mais elle assurait la continuité de l'appareil d'État. Khomeini était arrivé au pouvoir avec le feu vert de cette armée. Il ne pouvait cependant pas compter sur elle pour défendre sa clique religieuse dans la rivalité réelle ou potentielle entre les prétendants au pouvoir. Les moudjahidines du peuple n'allaient pas tarder à rompre l'unité qui avait porté Khomeini au pouvoir, et ce dernier pouvait craindre que l'état-major opte pour un autre parti que le sien, voire qu'il s'empare lui-même du pouvoir. Une armée parallèle fut donc créée en mai 1979, l'armée des gardiens de la Révolution, chargée de défendre le pouvoir du parti de Khomeini, le Hezbollah. L'armée des gardiens débuta avec 4000 hommes, appelés Pasdaran. C'est aujourd'hui une armée puissante qui compte 125 000 Pasdaran et dispose de corps de marine et d'aviation. Avec les événements de ces années 78-79, le clergé a pu se hisser au pouvoir en se mettant à la tête des masses insurgées dans une situation révolutionnaire. C'était alors tout à fait nouveau, car précédemment, dans les années 60-70, les guérillas, les mouvements insurgés contre l'impérialisme et ses dictatures, étaient généralement dirigés par des groupes de gauche, bien souvent maoïstes. Les événements révolutionnaires en Iran ouvraient une nouvelle époque, celle des mouvements religieux islamistes, car l'Iran a servi de modèle et depuis 1979, d'autres mouvements de contestation se font sous la direction de partis islamistes, comme par exemple le Hamas ou le Hezbollah en Palestine et au Liban. Le soulèvement révolutionnaire, un véritable soulèvement des masses populaires profondes, avait aussi secoué les campagnes. Dans plusieurs régions, des paysans pauvres, sans terre, occupaient celles des grands propriétaires. Ainsi, les Kurdes, partisans de l'autonomie de leur région, s'étaient insurgés. Et dès le mois de mai 79, les Pasdaran furent envoyés pour les écraser, tandis que l'armée classique bombardait les villes. Ce fut une véritable guerre civile. La violence s'abattit aussi sur les Turkmènes, près de la frontière nord du pays, et sur les populations arabophones du Khouzistan. Le nouveau pouvoir n'agissait pas autrement que le régime impérial, qui durant des décennies avait violemment réprimé les aspirations des peuples de ce pays, où les Persans ne forment guère plus de la moitié de la population. Peu après l'arrivée au pouvoir de Khomeini, l'unité au sein du camp qui avait renversé la dynastie Pahlavi fit place à la lutte des factions. À plusieurs reprises durant l'année 79, les partis laïcs et les organisations de gauche s'opposèrent au parti islamiste de Khomeini, qui tentait de s'imposer comme parti unique. En protestation, des manifestations organisées par le Front national démocratique d'Iran, un parti inspiré de l'ancien ministre Mossadegh, et par les partis de gauche, rassemblèrent des dizaines de milliers de personnes en juin et en juillet 1979. Les fédaïnes du peuple, très actifs pendant la Révolution, obtinrent environ 10% des voix lors des élections qui suivirent l'insurrection de février 1979. Comme le parti Toudé qui vota la constitution de la République islamique, les fédaïnes apportèrent leur soutien au régime de Khomeini durant ses premières années. Ils justifiaient ce choix en prétendant que, dans le cadre d'une révolution par étapes, il était nécessaire de soutenir la petite bourgeoisie nationale et démocratique dont le représentant était Khomeini. Seule une minorité des fédaïnes fit scission en 1980 pour s'opposer au régime. Le pouvoir des mollahs se consolidait en éliminant ses contradicteurs et en s'appuyant sur une démagogie nationaliste et populiste sous l'emblème de la religion. Une démagogie populiste, car le nouveau pouvoir affichait un discours destiné aux déshérités, comme il disait, pour leur faire croire qu'il allait répondre à leurs aspirations. Dans le même temps, il s'attelait à limiter les libertés pour les travailleurs, alors que des comités ouvriers, des organisations syndicales avaient surgi à la faveur de l'élan révolutionnaire. Le droit de grève fut rapidement interdit, les leaders syndicaux furent arrêtés et la liberté de la presse supprimée. Et le nouveau régime s'appuyait en même temps sur les sentiments nationalistes et anti-américains. Bazargan, alors chef du gouvernement, était plutôt favorable à des relations économiques et politiques avec les pays étrangers, même les États-Unis. Et bien trop libéral et trop pro-occidental pour le parti de Khomeini, il n'allait pas tarder à tomber. L'impérialisme avait mis l'Iran à sa botte. Avec la dictature du Shah, le régime de Khomeini montrait au contraire qu'il voulait avoir une plus grande marge de manœuvre vis-à-vis des Américains. Le coup de force des étudiants du Parti de la République islamique contre l'ambassade des États-Unis le 4 novembre 1979 était destiné à en finir symboliquement avec une politique qui avait été celle du régime impérial. Les otages de l'ambassade américaine ne furent libérés que 440 jours plus tard. Cette prise d'otages était une simple et spectaculaire opération de propagande qui affichait la volonté de se débarrasser de l'emprise trop forte des États-Unis sur l'État iranien. Le parti de Khomeini en fut renforcé et le gouvernement Bazargan démissionna. Le nationalisme du nouveau régime s'exprima également, bien que moins brutalement, vis-à-vis de l'Union soviétique par la dénonciation du traité irano-soviétique datant de 1921. Pour consolider son pouvoir, il restait à Khomeini à s'imposer partout dans le pays, en particulier dans la région d'Azerbaïdjan, où un ayatollah influent devint le leader d'une révolte contre le pouvoir dans la ville de Tabriz. La répression s'abattit sur le mouvement pour le réduire à néant. En février 1980, lorsque les premières élections présidentielles de la République islamique eurent lieu, c'est un proche de Khomeini, nommé Bani Sadr, qui fut élu. Il était l'un des rédacteurs de la Constitution qui donna tout le pouvoir politique à l'ayatollah désigné comme guide suprême et qui affichait aussi le nationalisme du régime en interdisant, par exemple, de céder les secteurs gaziers et pétroliers à des compagnies étrangères. Des manifestations anti-américaines furent organisées dans plusieurs villes et la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis eut lieu en avril 1980. Le clergé chiite et Khomeini, utilisant la religion pour tromper les masses, avaient réussi à mettre en place un régime avec une base populaire. Il donnait l'illusion d'être au service des pauvres, en prenant le contre-pied de ce qu'avait été la monarchie et en dénonçant l'impérialisme américain. D'autre part, un autre facteur joua en faveur du régime. Avec la chute de la monarchie, les hommes proches du Shah, bourgeois affairistes, responsables de l'administration ou de l'état-major, avaient été nombreux à fuir le pays. Et cela s'ajoutait à l'épuration qui eut lieu parmi les dirigeants et les cadres précédemment en place. Et l'économie en fut, dans un premier temps, paralysée. Mais les nombreux postes, devenus vacants, permirent une ascension sociale certaine à toute une catégorie de subalternes qui en furent reconnaissants au régime. Pour gérer les biens expropriés des ex-dignitaires de la monarchie, des fondations furent créées. Il s'agissait en quelque sorte de nationaliser les fortunes des hommes de l'Ancien Régime. La plus importante d'entre elles, la Fondation des Déshérités, commença par gérer les biens de la famille Pahlavi, avec un rôle principalement caritatif. Les fondations sous le contrôle du clergé devinrent par la suite de véritables conglomérats à capitaux publics ayant de multiples activités. Le régime prétendait construire une économie indépendante et puissante, Les entreprises dont les propriétaires avaient disparu furent confisquées. D'autres furent nationalisées, les banques, les caisses de retraite, des entreprises industrielles. Finalement, la part de l'État dans l'industrie passa de 39 à 70% du capital. Seuls les secteurs de l'artisanat et du petit commerce n'ont pas été concernés par les nationalisations. Malgré son poids, la bourgeoisie bazarie, traditionnellement hostile à l'État patron, n'avait pu empêcher les nationalisations, car celles-ci s'étaient imposées comme une nécessité pour faire repartir l'économie. Le commerce extérieur ne fut pas immédiatement mis sous le contrôle de l'État, et la bourgeoisie commerçante put largement profiter des besoins du pays dans le domaine des échanges et de l'importation. D'autant que ces besoins étaient importants pour atteindre les objectifs affichés, tels que l'autosuffisance dans le domaine agricole et en particulier de ne plus avoir à importer de blé, objectif qui ne fut pas atteint avant 2007. Les puissances occidentales avaient perdu un pays ami. Elles ne purent supporter plus longtemps ce régime anti-américain, imprévisible et capable de leur tenir tête en raison de sa base populaire. Les Occidentaux espéraient se débarrasser de Khomeini grâce à Saddam Hussein. Il s'agissait, pour les puissances impérialistes, d'utiliser l'État irakien, laïque et dirigé par des musulmans sunnites, pour mener la guerre à l'Iran et faire tomber le régime chiite iranien. L'Irak se lança à l'attaque de l'Iran en septembre 1980, en passant la frontière au sud, dans la région du Khouzistan, où l'armée irakienne prétendait arriver en libératrice, cette région étant majoritairement arabe. Au bout de quelques semaines, la ville portuaire iranienne de Khorramshahr, sur le golfe arabo-persique, était prise. Le conflit dura 8 ans, jusqu'en 1988. Il permit au régime islamique d'invoquer l'unité nationale pour résister à l'invasion, d'éliminer au passage les opposants et de se consolider. Le Hezbollah se renforça comme parti unique, en bâillonnant et en pourchassant toute opposition. C'est de cette époque que date l'interdiction des partis. Ceux qui sont considérés comme des ennemis de Dieu sont condamnés à mort. Ils peuvent être communistes, mais d'autres, par exemple les adeptes de la religion bahaï, un schisme de l'islam chiite, sont aussi traités de cette façon. À la faveur du conflit, un véritable apartheid institutionnel fut imposé aux femmes qui eurent l'obligation de porter le voile à l'extérieur du domicile et sur les lieux de travail. Une grande partie des femmes de la petite bourgeoisie urbaine, d'employés, perdirent leur emploi. Elles étaient déjà peu nombreuses à avoir un travail rémunéré à l'époque de la monarchie, et cela s'aggrava dans les premières années du nouveau régime. C'était une véritable régression pour les femmes de ces milieux. La loi islamique, la charia, fut aussi imposée et l'éducation des enfants fut strictement encadrée par les religieux. Les partis politiques devaient s'aligner, reconnaître la constitution de la République islamique et la suprématie du chef religieux à la tête de l'État. L'invasion armée suscita une vive réaction patriotique des Iraniens. Khomeini et les mollahs bénéficièrent donc de l'invasion irakienne pour rassembler la population derrière eux. Durant les 2 premières années, il y avait une quasi-unanimité pour suivre l'appel de Khomeini à la défense de la patrie. L'opposition tenta pourtant de relever la tête. Il y eut des sursauts de résistance et des manifestations en 1980 et 1981. À l'université, le parti de Khomeini, le Hezbollah, cherchait à expulser toutes les formations politiques qui ne le suivaient pas, et il y eut de violents affrontements. Finalement, l'université fut fermée pour 2 ans par le gouvernement. En juin 1981, après la répression brutale d'un rassemblement organisé à Téhéran par les Moudjahidines du peuple, ceux-ci entrèrent en résistance par une lutte armée et des actions spectaculaires. Par exemple, ils firent sauter le siège du parti de la République islamique, tuant plusieurs dizaines de membres éminents du régime. Le pouvoir accrut encore la répression contre tous ceux qui étaient suspectés de liens avec les Moudjahidines, car ce parti avait attiré beaucoup de jeunes de la petite bourgeoisie, et il avait de nombreux liens au sein même de l'appareil d'État. D'après Amnesty International, il y aurait eu environ 1800 exécutions d'opposants de juin à septembre 81. La guerre civile contre les Moudjahidines et des groupes de gauche dura tout au long de l'année qui suivit. C'est dans ce contexte de terreur qu'Ali Khamenei, membre du clergé intermédiaire et secrétaire général du Parti de la République islamique, devint président de la République. Il choisit Mir Hossein Mousavi comme premier ministre, le même homme qui fait aujourd'hui parler de lui en dénonçant les irrégularités de l'élection présidentielle. Parallèlement, l'Irak prenait le dessus dans la guerre. À la fin de l'année 80, son armée avait détruit la raffinerie d'Abadan et établi un front de 500 km de long en Iran. Devant la ville de Khorramshahr, majoritairement arabophone, les Irakiens avaient rencontré une résistance populaire inattendue. Les Arabes et les sunnites de cette région ne voyaient pas avec sympathie l'occupation des troupes irakiennes, car pour eux, comme pour les Persans et les chiites dans tout le pays, le régime islamique de Khomeini était le résultat de leur soulèvement pour se débarrasser de la domination étrangère et de l'oppression sociale. De son côté, le gouvernement iranien tentait de réorganiser l'armée traditionnelle, affaiblie par l'épuration des officiers royalistes et privée de l'aide américaine. Il mobilisa l'armée des gardiens de la révolution et la population dans des milices de volontaires, les Basiji. Parmi eux, il y avait un certain Ahmadinejad, qui aurait alors été instructeur de ces jeunes prêts à mourir pour le nouveau régime. De très jeunes gens, des enfants, furent alors engagés au combat dans ces milices, avec un esprit de sacrifice. Tant et si bien qu'après presque 2 ans de guerre, en juin 82, l'armée irakienne dut évacuer tout le territoire iranien. À son tour, le pouvoir iranien décida d'attaquer le territoire irakien. En juillet, l'armée iranienne passait la frontière irakienne et progressait en direction de la ville de Bassora. C'était un tournant, à la fois militaire et politique, car dès lors, le régime ne pouvait plus se servir de l'argument de la défense du territoire national pour obtenir le consensus. La contre-attaque iranienne allait faire durer la guerre plusieurs années encore. Des protestations commencèrent à s'élever et en 1983, des manifestations contre le régime évoluèrent en affrontements avec la police dans plusieurs villes. Pour la jeunesse iranienne, la seule perspective devenait l'enrôlement et le sacrifice au nom de l'islam chiite. Ceux d'entre eux qui n'étaient pas prêts à aller se battre sur le front étaient condamnés à aller nettoyer les champs de mines en les faisant sauter avec eux. Des centaines de milliers d'hommes jeunes fuirent alors dans un véritable exode vers les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord pour les plus riches et à pied vers la Turquie ou l'Inde pour les autres quand ils en avaient les moyens. Alors que l'Union soviétique signait un accord de coopération avec l'Irak, le gouvernement décida d'en finir avec les communistes. Le parti Toudé connut des milliers d'arrestations et de nombreuses exécutions. Depuis, le Toudé a presque disparu et la majorité de ses membres, quand ils n'ont pas abdiqué devant le régime islamique, vivent en exil. De son côté, l'organisation des Moudjahidines du peuple, dont les dirigeants et militants s'étaient réfugiés en Irak, continuèrent à combattre le régime de Khomeini en participant à la guerre aux côtés de l'État irakien et ils établirent une base de combat dans ce pays en 1986. Ce choix militaire des Moudjahidines les discrédita largement auprès de la population d'Iran. À partir de 1984, les forces armées des deux camps s'en prirent systématiquement aux installations industrielles et pétrolières de l'adversaire. Mais la guerre durait, et quand l'Irak reprit le dessus vers la fin de l'année 87, il devint bien plus difficile au régime iranien d'empêcher la démoralisation des combattants et l'usure de la population qui fut massivement bombardée par l'aviation irakienne dans plusieurs villes importantes, dont Téhéran. C'est avec l'aide militaire des puissances impérialistes, dont la France, que les armées irakiennes avaient repris le dessus depuis plusieurs mois. Les Américains détruisirent d'ailleurs eux-mêmes des plateformes pétrolières, puis une grande partie de la flotte iranienne. Acculé, l'Iran accepta de terminer cette guerre en juillet 1988. Au bilan, il y eut plus d'un million de morts. Des centaines de milliers d'hommes, dont beaucoup étaient très jeunes, furent en outre gazés ou mutilés. En Iran, des millions de personnes furent déplacées, car une grande partie des combats eurent lieu sur le sol iranien. Les conséquences de la guerre furent catastrophiques pour les deux pays. Les destructions étaient importantes, des villes étaient anéanties, des régions entières dévastées. L'Iran est sorti ravagé et affaibli par cette guerre, et l'Irak aussi. À l'issue du conflit, les deux pays étaient à nouveau plongés pour des années dans le sous-développement et la dépendance économique vis-à-vis des mêmes pays qui avaient alimenté en armement les deux camps opposés. En effet, si les Occidentaux ont soutenu l'Irak, ils ont vendu des armes des deux côtés. Même les États-Unis le firent, par l'intermédiaire d'Israël, car c'est l'État d'Israël, très lié à l'Iran à l'époque du Shah, qui a été l'un de ses principaux fournisseurs de matériel militaire. De son côté, l'État français n'a pas été en reste. Il soutenait officiellement l'Irak et il a été son principal fournisseur d'armes. Au début de la guerre, en moins de 3 ans, la France a vendu pour plus de 40 milliards de francs d'armement à Bagdad. Mais plusieurs entreprises françaises, dont Luchair et Dassault, ont aussi vendu des armes à l'Iran. Sur le plan politique, en Iran comme en Irak, la guerre a renforcé les plus conservateurs et les courants réactionnaires au pouvoir. La situation leur permit de justifier la suppression de tout droit démocratique et d'éliminer les opposants. Les forces d'opposition furent décimées et la classe ouvrière contrainte au silence, ce qui par ailleurs ne pouvait que réjouir les États impérialistes et en premier lieu les États-Unis, qui finançaient pendant ces années les mouvements anticommunistes en Afghanistan, depuis les Moudjahidines, combattant la présence de l'armée soviétique, jusqu'aux talibans. Le pouvoir religieux put accentuer sa mainmise sur la société et sur l'armée, et c'est dans ce contexte que plusieurs courants religieux et politiques chiites, islamistes, sont devenus plus puissants et plus actifs. Le poids et l'effectif de l'armée idéologique du régime des Pasdaran s'accrut. Le régime put trouver de nombreux partisans parmi les hommes qui furent intégrés en grand nombre dans l'appareil militaire et paramilitaire. Trouver du travail était alors très difficile et l'armée des gardiens de la révolution, comme les milices Basiji, représentait l'un des rares moyens pour les hommes de pouvoir toucher un salaire. Le chômage massif, le rationnement mis en place par le gouvernement, favorisèrent le développement du marché noir alors que l'inflation galopait. Toute une économie commerçante souterraine se mit en place durant la guerre, au bénéfice de la bourgeoisie des marchands du bazar, eux-mêmes proches du pouvoir. Les importations furent très fortement réduites durant cette période, mais l'économie du pays, presque en autarcie, ne s'écroula pas. Elle résista et le régime religieux tint le coup. Khomeini mourut en 1989, un an après la fin de la guerre. Durant ses 10 ans de pouvoir, le régime avait réussi à se consolider, même si l'enrichissement de nouveaux riches, liés au régime, les initiés, et de trafiquants divers, avait sans doute déçu les espoirs des classes populaires qui avaient espéré que le changement de régime mettrait fin aux injustices et aux profondes inégalités développées durant la monarchie. Le régime islamique n'avait plus le soutien enthousiaste des premières années. Ali Khamenei, toujours en place aujourd'hui comme guide suprême, fut le successeur de Khomeini. Il eut pour premier président le richissime homme d'affaires Rafsanjani, qui dirigeait alors le Parlement. Durant les 8 années de présidence Rafsanjani, l'affairisme alla bon train. Cet homme extrêmement riche est aujourd'hui encore l'un des piliers du régime, membre dirigeant des plus hautes institutions du pays, comme le Conseil de discernement des intérêts de l'État, mis en place pour arbitrer les conflits entre les cliques se disputant le pouvoir. Avec Rafsanjani, le discours du gouvernement se débarrassa en partie des justifications idéologiques et sous le mot d'ordre de reconstruction des privatisations débutèrent. En 1997, l'ayatollah Khatami, connu pour être un réformateur, fut élu à la présidence du gouvernement avec un score de 70%. Son élection suscitait des espoirs dans la petite bourgeoisie intellectuelle, car son programme promettait plus de liberté et de démocratie. Mais peu après, en juillet 1999, un mouvement d'étudiants qui réclamait plus de liberté fut réprimé et plusieurs d'entre eux furent condamnés à mort. Une nouvelle vague de répression s'abattit ensuite sur les intellectuels, tandis que de nombreux journaux étaient fermés. Après cette vague de répression, les réformateurs perdirent la popularité dont ils avaient bénéficié, car elle était basée sur les illusions démocratiques que leur arrivée au gouvernement avait suscitées. La réélection de Khatami pour un second mandat fut donc nettement moins triomphale. C'est cet homme qui est aujourd'hui l'une des figures de l'opposition au gouvernement qui lui a succédé en 2005, celui d'Ahmadinejad. Ahmadinejad gagna les élections présidentielles en dénonçant la corruption. Une partie de la population pauvre fut sensible à son discours, inspiré des slogans de 79, comme celui de la République des pauvres. Mais l'Iran d'aujourd'hui n'est plus le même pays qu'il y a 30 ans, et c'est ce que nous verrons après la pause.